Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue à Radio Créum. Éthique en série avec Martin Winkler et Daniel Weinstock.
J'enseigne un cours à la faculté de droit de l'Université de Montréal qui s'appelle Éthique et droit pour la première fois l'année prochaine. Évidemment, pour des raisons professionnelles, j'ai souvent été amené à réfléchir à la relation entre l'éthique et le droit. Je me demande dans quelle mesure je ne serais pas amené à utiliser des épisodes de Law and Order pour mobiliser l'attention des étudiants, parce qu'il me semble que, entre toutes sortes d'autres choses, Law and Order a été un très brillant débat interne sur deux positions qui sont, je dirais, centrales, capitales dans la philosophie du droit, qui sont d'un côté ce qu'on appelle le positivisme, d'un autre côté, bon, ce qu'on pourrait appeler une vision plus morale du droit, tradition juste naturaliste du droit. La première position, le positivisme, nous dit que le droit est le droit et n'est pas de l'éthique. Il faut éviter la confusion qui consiste à penser que la fonction du droit est de faire valoir dans une société les valeurs morales de la majorité, qu'une obligation légale est réductible à une obligation morale. Le positivisme va nous dire que le droit est un dispositif séparé, distinct de régulation sociale, distinct de la morale et qu'on rentre dans toutes sortes de problèmes lorsqu'on les confond. Ce qui donne lieu à une éthique, si on est positiviste, ça donne lieu à une éthique de rôle des avocats et des juges qui est très différente de celle qu'on aurait si on voyait le droit comme étant directement porteur de valeurs morales. L'éthique de rôle de l'avocat ou du juge dans une vision positiviste, c'est de dire, écoutez, moi, à la limite, je n'ai pas à réfléchir, encore plus, j'ai à ne pas réfléchir aux implications morales de ce que je fais. Il y a le droit, il me commande d'appliquer le droit. Ensuite, si ça donne des résultats qui sont éthiquement problématiques, au législateur de changer les lois, moi, je n'ai pas à avoir ce regard extérieur au droit. Bon. Par opposition à une vision qui dit essentiellement le contraire, qui dit que sans être nécessairement le véhicule des valeurs majoritaires, comme l'ont pensé certains philosophes, le droit a quand même une fonction morale. Le droit a quand même une fonction morale et que aussi bien les juges que les avocats ne peuvent jamais complètement se passer d'une sorte de double regard. Le droit, évidemment, qui a son intégrité et qu'on doit respecter, mais lorsqu'il donne lieu trop systématiquement à des résultats qui sont moralement indéfensibles, ben, il y a un problème et on ne peut pas attendre 4 ans que les législateurs changent la loi pour agir en fonction directement des finalités morales qui devraient être celles du droit. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, fini le cours de philosophie du droit, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé avec cette émission, c'est à quel point d'épisode en épisode, il y a une dramatisation de cette tension qui parfois va opposer des personnages, mais qui, et alors là c'est ce qui est le plus intéressant, va souvent habiter le personnage. Et alors pour moi, Jack McCoy, parmi les multiples trucs qui rendent ce personnage brillant, c'est qu'il est habité, pas seulement conscient de, mais habité par la passion de l'un et la passion de l'autre. Il peut parfois se comporter comme un strict positiviste. Écoutez, voilà où le droit va nous mener, je peux voir que c'est un résultat moralement problématique, mais le droit est le droit. Et par contre, parfois, il est aussi passionné par l'autre résultat. Et alors qu'un prof de philo va présenter ces deux positions de manière sèche, aride et abstraite, il y a des épisodes de Law and Order très fréquents où on peut véritablement soi-même être habité par cette tension. Il y a un épisode tout récent donc, qui est passé cette année avec Kyle MacLachlan, donc l'acteur de Twin Peaks, entre autres, dans lequel il y a un crime avec deux enfants. Il y a un enfant qui en tue un autre. On découvre qu'il y a un enfant qui en a tué un autre. Au départ, on pense qu'il y a eu un accident. Bon, je ne vais pas raconter tout l'épisode parce que ça prendrait 42 minutes. Mais la personnage féminine, donc l'assistante de Linus Roach, dont le nom, tu me l'as rappelé il y a un instant.
Connie
Rosa. décide que dans la mesure où il y a une marge juridique qui permet de faire de sorte que le procès de cet enfant soit entendu, non pas en cour familiale, mais jugé comme un adulte, bah, qu'elle allait pousser le maximum, qu'elle allait pousser pour le maximum. Bon, pour un Canadien, hein, dont les sensibilités morales sont peut-être un peu plus douces que celles de nos voisins du Sud, on est d'abord horripilé, hein, qu'on puisse même penser qu'un enfant de 12-13 ans soit traduit en justice comme un adulte. Bon, il y a des retournements de situations qui font que tout d'un coup, quelque chose qu'on pensait absolument horrible et odieux, tout d'un coup se présente sous un jour différent. Mais c'est une des tensions éthiques réelles dans le droit, mais une des tensions dramatiques de cette série qui a consisté à montrer aussi bien la plausibilité philosophique, éthique, mais également humaine et psychologique de ces deux positions.
Mais ça rejoint le fait que, pour en avoir beaucoup parlé avec René Balcé, qui donc a écrit longtemps pour Law and Order, le propos même de la série télévisée pour les Américains, quand ils font une série, le propos même, c'est le conflit. C'est-à-dire, ils vous disent, il n'y a pas d'histoire s'il n'y a pas de conflit. Donc, ce qu'on essaye de mettre en scène, c'est un conflit, et d'essayer de montrer s'il y a des solutions ou s'il n'y a pas des solutions. Et parfois, ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'il n'y a pas de solution. C'est-à-dire que les deux possibilités ou les trois possibilités qui s'offrent aux différentes personnes qui ont mis ce conflit en scène, c'est que toutes les solutions vont être mauvaises. Les gens se sont mis dans une situation dans laquelle il n'y a pas de bonne solution au conflit. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans les conflits intérieurs que tu décris très bien et qui sont très fréquents chez les district attorneys, souvent le conflit est illustré par l'opposition entre l'assistant district attorney qui est joué par exemple par Sam Waterston, Jack McCoy, et puis par son assistante, le plus souvent ce sont des femmes, son assistante qui a un point de vue différent. Mais parfois, effectivement, ça se tient à l'intérieur du même personnage. Ça commence très tôt dans la série, parce que, par exemple, je me souviens avoir revu, il n'y a pas très longtemps, un épisode de la toute première saison qui s'appelle The Reaper's Helper, dont j'ai peut-être parlé dans une émission précédente, qui est le fait qu'un jeune homosexuel atteint du sida aide deux autres de ses amis homosexuels. D'ailleurs, l'un est un de ses amis, l'autre, il ne le connaît pas. Il les aide à se suicider. Et donc, Ben Stone est amené à traduire en justice quelqu'un qui, en fait, est responsable d'une aide au suicide. Ce n'est pas un assassin, à proprement parler. Il est responsable d'une aide au suicide. Et il va lui-même mourir de la maladie dont il aide ses amis à se suicider. Et c'est un problème pour lui parce qu'il ne peut pas ne pas essayer d'appliquer la loi, c'est-à-dire de dire, bah oui, mais l'aide au suicide, c'est interdit. Et d'un autre côté, il a un problème moral qui est de traduire en justice quelqu'un qui, à l'époque dont on parle, c'est-à-dire en 1990, essaye de procurer une mort plus douce que la mort par le sida. Donc, il me semble, et c'est ça que je trouve tout à fait passionnant dans la série, il me semble que cette tension dont tu parles, alors je rappelle que les scénaristes de Law and Order sont pour beaucoup des avocats, donc des gens qui connaissent exactement ce que c'est que la justice, ils ont à cœur cette tension entre le positivisme et puis la recherche d'une solution ou d'une réponse qui soit une réponse éthique qui fasse progresser la société. Je me souviens d'un autre épisode qui s'appelle... j'oublie le nom, mais enfin, c'est le premier épisode, de la 9e ou de la 10e saison, qui est un épisode dans lequel un homme fusille à la mitrailleuse un groupe d'étudiantes en médecine. Pourquoi ? Parce qu'il y a des quotas qui font rentrer plus de filles que de garçons, qui favorisent les filles dans les études de médecine de façon à ce que ce soit paritaire. Et lui, il a été refusé à cause des quotas. Et donc, il va acheter une mitrailleuse. Et le procès, c'est très intéressant aussi dans Law and Order, parce que très souvent, ça commence d'une manière et puis ça continue sur tout à fait autre chose. Le procès ne porte pas du tout sur le fait qu'il a tué ses femmes, parce qu'on sait qu'il les a tuées. Le procès porte sur le fait qu'il a acheté un pistolet semi-automatique qui en principe doit rester semi-automatique, c'est-à-dire tirer balle par balle, mais qui peut être modifié simplement pour devenir un fusil automatique, c'est-à-dire tirer par rafale. Et ils font donc le procès du fabricant,
tout à fait,
du fabricant du pistolet, en disant, vous fabriquez un pistolet qui peut être modifié facilement, et ils expliquent comment il peut être modifié, donc vous mettez sur le marché une arme qui est contraire non seulement à la loi, mais à l'éthique. Et donc McCoy veut poursuivre ces gens-là en justice. Il les fait condamner par le jury, Mais le juge renverse le jugement parce qu'il dit vous ne pouvez pas faire ça. C'est-à-dire que dans certains cas, effectivement, on voit bien qu'il y a même un conflit entre le district attorney qui, en principe, est censé appliquer la loi et le juge qui doit avaliser la décision du jury et qui renverse la décision du jury. Ça arrive que quelquefois, peut-être une dizaine en tout dans les 500 épisodes de Law & Order. Mais quand ça arrive, c'est toujours au sujet de quelque chose qui est tellement controversé dans la société américaine, que précisément, les scénaristes ne veulent pas laisser une décision, une conclusion qui soit une conclusion happy end, mais ils veulent une conclusion qui traduit ce conflit, ces conflits de valeurs dans la société.
Et alors, le conflit n'est jamais, ce qui est brillant à propos de Law & Order, c'est que ce conflit n'est jamais résorbé. Hein, au bout de 20 ans, on ne peut pas dire qu'il y ait une morale de l'histoire, en quelque sorte. Et il me semble que de la même manière que l'on peut philosophiquement défendre les deux positions avec lesquelles j'ai commencé cet épisode, Law & Order s'est toujours imposé hein, la responsabilité de montrer que le droit, c'est pas qu'un obstacle, c'est pas qu'un truc qui nous empêche d'avoir les méchants parce qu'il y a un obstacle juridique qui fait que alors qu'on voit qu'il est méchant, on peut pas aller le chercher parce qu'il y a un problème au niveau de l'introduction de la preuve ou parce que pour le genre de raisons que tu as invoquées et dans le cas de l'épisode de l'arme semi-automatique, que le droit a son intégrité et que si on commence à le bazarder, si chaque juge, chaque avocat décide qu'il est dans son droit de le bazarder parce que lui peut voir dans tel cas précis quelle est la finalité morale qu'on devrait, ben on a un problème. Donc je dirais que faire une analogie avec une émission dont on parlera sans doute à un moment donné qui est Urgence. Oui. Hein, il y a un conflit dans Urgence qui, dans les premières années, est incarné dans la relation entre Green et Ross, entre le médecin un peu prudent qui veut s'assurer que les règles sont toujours respectées, même si parfois elles nous empêchent de faire ce qu'on devrait faire pour le bien des patients, et l'autre qui soigne le patient, s'occupe des retombées professionnelles que le fait d'avoir outrepassé certaines règles peuvent lui occasionner par la suite. Hein. Donc Ross est je sais pas, je me trompe peut-être que j'ai moi-même succombé au charme de George Clooney qui représente...
Non, mais le personnage est bien fait comme ça.
Je pense qu'on a toujours un peu tendance, et l'émission nous pousse un peu à avoir plutôt de la sympathie pour le personnage de Ross que pour le personnage beaucoup plus précautionneux de Green. Et alors, ce que Law & Order a réussi à éviter toutes ces années, c'est de nous faire pencher d'un côté ou de l'autre de manière définitive. Il y a des épisodes où il semble clair hein, que... Il est nécessaire d'aller au-delà de ce que le droit prescrit parce qu'on va arriver à un résultat complètement aberrant. Il y a d'autres situations où ce n'est pas si clair et on ne peut pas en arriver à une formule magique qui nous permette de dire là, il faut agir comme un bon positiviste, là, il faut agir comme un défenseur d'une vision plus moralisée du droit.
Oui, moi, je crois que c'est la grande force de cette série, c'est qu'elle pose plus de questions et elle les pose de manière très claire pour tout le monde qu'elle ne donne de réponses.
À suivre la semaine prochaine.